Personnel.
Richement illustré, Food Histoire de Xavier Mauduit, un livre France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 11h et 11h, c'est l'heure de retrouver comme tous les vendredis Mélanie Chalandon pour Culture Monde. Bonjour Mélanie.
Bonjour Géraldine.
Ah, je n'entends pas Mélanie.
Alors moi je vous entends, mais je vais vous donner le programme.
Ah ça y est, allez-y, donnez le programme.
Je vous donne le programme. Le vendredi, une émission en deux parties comme d'habitude et on commence avec un retour du Brésil. On va parler de la situation politique et de l'état de santé de Lula et puis dans une seconde partie, la situation humanitaire à Gaza.
Bonne émission.
Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troiano et Christine Anger, réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Dalia. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous parlons ce matin de la situation humanitaire à Gaza et de cette aide qui arrive au compte-gouttes sur le territoire. Le nombre de camions qui entrent dans l'enclave a fortement diminué en novembre selon l'ONU, tandis que les ONG se voient contraintes de suspendre leurs activités en raison de l'insécurité. Pourquoi ces blocages? Qui en est responsable? Quelles conséquences pour les Gazaouis? Nous en discuterons avec nos invités. Julia Grignon, bonjour.
Bonjour
et bienvenue. Vous êtes professeure de droit à l'université Laval et Paris Panthéon Assas, directrice scientifique de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste du droit international, humanitaire. Et à vos côtés, elle nous rejoindra dans quelques instants, Amélie Ferret, qui est responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI et membre du Centre des études de sécurité au sein du même institut, spécialiste du droit de la guerre et du conflit israélo-palestinien. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Bruno Meyerfeld.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, correspondant au Brésil. Vous êtes de passage quelque temps en France et nous en profitons pour revenir sur la situation politique au Brésil où le président Lula a été opéré il y a quelques jours pour une hémorragie crânienne. S'il se dit en pleine forme et qu'on le voit tout sourire sur les photos à sa sortie de l'hôpital, cet accident pose des questions sur l'avenir politique de Lula et de la gauche brésilienne car à 79 ans et à mi-parcours de son mandat, il serait d'ores et déjà candidat à la présidentielle de 2026, ce qui peut laisser sceptique quant à son état de santé. Vous étiez encore au Brésil lorsque Lula a été hospitalisé puis opéré. Comment l'événement a-t-il été perçu sur place? Quelle réaction cela a-t-il provoqué?
Bon, on a vu des réactions de solidarité avec Lula, qui est un vieux monsieur. L'âge est quelque chose qui est assez respecté au Brésil. Mais on a vu beaucoup d'inquiétudes aussi, notamment à gauche, parce que en réalité, il n'y a aujourd'hui aucun successeur, ni prévu, ni suggéré, ni même pensé pour Lula, qui est une figure considérable dans l'histoire du Brésil, parce qu'il faut rappeler qu'il est dans la vie politique brésilienne depuis 50 ans. À l'échelle du Brésil, c'est quasiment le quart de son histoire depuis l'indépendance. Donc c'est un personnage assez irremplaçable et qui n'a pas de successeur à gauche aujourd'hui, donc énormément d'inquiétudes.
Quand vous dites pas de successeur, c'est difficile à comprendre parce que le Parti des Travailleurs est quand même un parti avec beaucoup de responsables, d'élus, au niveau local, national, donc parmi toutes ces figures, toutes ces personnes qui sont militantes et qui accompagnent Lula depuis longtemps, il n'y a pas une personne qui émerge, une personnalité qui aujourd'hui pourrait prendre la suite en termes de leadership.
Non, mais il faut aussi voir que Lula, c'est un leadership assez particulier, assez unique finalement. C'est un ouvrier métallurgiste qui est arrivé au pouvoir au Brésil de gauche et qui a eu un bilan, en tout cas durant ses deux premiers mandats, plus qu'honorable, voire très positif. Donc c'est vraiment quelqu'un qui arrive à faire exister le Brésil sur la scène internationale, notamment la gauche. Et c'est très compliqué de remplacer un leader de cette carrure. Et c'est d'autant plus compliqué en ce qui s'agit par exemple de Lula, parce que qu'il y a effectivement des gens qui ont émergé à gauche durant ces gouvernements, comme le ministre de l'économie et du budget actuel, Fernando Haddad, mais c'est des personnages qui sont du milieu intellectuel, du milieu universitaire, d'une certaine élite de gauche brésilienne.
Ils n'ont pas la légitimité de l'origine.
Un leader populaire de la carrure de Lula, c'est vraiment très compliqué. Et il se trouve que Lula, dont on sent qu'il a envie de faire de la politique jusqu'à la fin de sa vie, qui est prêt à mourir sur scène, n'a pas non plus organisé une succession. Il a même eu plutôt tendance, à un certain moment, à casser les potentiels successeurs. Je pense par exemple à Marina Silva, qui était peut-être la ministre de l'écologie, qui à une époque était peut-être sa successeur le plus populaire. Donc c'est assez compliqué et on voit pas de mouvement aujourd'hui pour une succession de Lula, ce qui est très compliqué dans un pays qui est toujours plus conservateur et qui a de fortes chances de passer à droite.
Justement, dans les réactions, vous disiez il y a l'inquiétude du côté de la gauche, mais du côté de ses opposants politiques. Vous rapportez dans vos articles que la comparaison est de plus en plus faite entre Lula et Joe Biden. Que signifie cette comparaison?
Ce que j'ai appelé la bidenisation de Lula. Lula a 79 ans. Il a un bilan plus qu'honorable, même durant ce mandat au Brésil. Bon, je rappelle que le chômage est au plus bas depuis une décennie. La croissance économique est de 3%. La déforestation a baissé de moitié et le Brésil est revenu quand même sur la scène internationale, notamment en pouvant organiser le G20 il n'y a pas très longtemps et la COP dans un an à Belém. Et pourtant, les Brésiliens ne lui sont pas grés, ne le remercient pas pour ce qu'il est en train de faire. Sa popularité plafonne autour de 37, 38, 36% d'opinion positive, donc on est très loin des 85% qu'il avait en 2011 à sa sortie du pouvoir. Donc il y a l'âge, il y a le bilan qui n'est pas reconnu, il y a des adversaires à l'extrême droite qui sont extrêmement bien préparés, il y a trop qu'on pourra en reparler, il y a 3 ou 4 personnes à l'extrême droite qui peuvent prendre la succession de Bolsonaro et potentiellement battre Lula, donc il y a pas mal de... Et il y a les problèmes de santé qui sont pas du tout aussi visibles, on va dire, au jour le jour que Joe Biden. Il n'y a pas d'indice de problèmes d'élocution, de problèmes de démarche, mais il y a quand même eu un incident de santé très grave. Donc le risque, c'est un dirigeant de gauche essayant à tout prix de se représenter et perdant face à l'extrême droite. Et ça, c'est le modèle Biden. Et on a toujours vu que le Brésil, ces dernières années, a suivi à quelques années d'écart les États-Unis. Ça a été le cas avec l'élection de Trump puis de Bolsonaro, l'arrivée de Biden, le retour de Lula.
Ce paradoxe, cette inadéquation entre d'un côté une popularité assez faible et un bilan économique sur le papier assez bon, une croissance à 3%, un chômage qui n'a jamais été aussi bas, une inflation qui est relativement maîtrisée à 4,5%, on est loin des 12% d'il y a 2 ans. Vous l'avez entendu notamment à São Bernardo do Campo, qui est une ville dans la banlieue de São Paulo. Et ici, il y a par exemple Lara, c'est une agente de santé publique, qui vous dit... Ici, le nombre de sans-abri a explosé, des chantiers sont à l'arrêt depuis 30 ans et le système de santé est en crise. Il faut parfois attendre des mois pour faire une simple tomographie. Qu'est-ce que ce témoignage-là, qui je crois est anonymisé, nous dit de ce paradoxe entre un bilan a priori positif et puis des déceptions qui sont quand même fortes, y compris dans les fiefs historiques du Parti des Travailleurs?
Alors le São Bernardo do Campo, c'est le berceau du Parti des Travailleurs et Lula. C'est là que Lula a organisé ses grandes grèves ouvrières dans les années 70-80, menant des centaines de milliers de métallurgistes contre la dictature militaire. Il se trouve que cette ville incarnait un peu le laboratoire du Parti des Travailleurs et du PT, c'est-à-dire des ouvriers bien rémunérés, avec des droits sociaux avancés, faisant partie de syndicats puissants et organisant une société plus juste et allant vers le progrès. Or, ce modèle, il s'est effondré à cause de la désindustrialisation du Brésil, mais aussi du progrès des églises évangéliques, notamment dans ces quartiers-là qui ont substitué les syndicats. Et en fait, dans ce genre de... C'est typiquement le genre d'endroit où on voit un recul du Parti des Travailleurs, une avancée d'un conservatisme, parfois de l'extrême droite, notamment porté par les évangéliques, mais aussi par les réseaux sociaux, dominés par les conspirationnistes, et une certaine lassitude de la classe moyenne par rapport justement aux inégalités, aux problèmes d'infrastructure, aux problèmes de santé publique, qui est un énorme problème au Brésil. Et donc on a une partie du Brésil qui, à une époque, avoir 3% ou 4% de croissance dans le Brésil du début des années 2000, c'était considérable. D'autant plus, il y avait de la redistribution des richesses, c'était quelque chose qui avait été jamais vu. Aujourd'hui, le Brésil s'est habitué à la Bolsa Familia, il s'est habitué habitués à des taux de croissance un peu plus élevés. Une partie de la société a atteint la classe moyenne et malgré la crise n'est pas retombée dans la pauvreté. Et cette classe moyenne-là, elle ne se sent pas redevable à Lula de ses résultats économiques. Elle veut plus et surtout, elle ne supporte plus ce qu'elle pressent comme un progressisme de gauche, pro-avortement, libéralisant les drogues ou défendant les droits des minorités sexuelles. Donc ces personnes-là sont très à cheval. Donc les taux de croissance ne font plus la popularité au Brésil.
L'autre grande question au Brésil actuellement, c'est l'avenir de l'ancien président Jair Bolsonaro. Fin novembre, il a été inculpé pour participation à une tentative de coup d'État. Alors c'est une inculpation qui s'ajoute à d'autres affaires. Il faut aussi rappeler qu'il a été condamné à 8 ans de prison, et de 8 ans, pardon, d'inéligibilité. Cette inculpation pour tentative de coup d'État, de quoi s'agit-il exactement? C'est une révélation assez récente des services de police brésiliens.
Alors, c'est une révélation récente, mais c'est une suspicion ancienne, puisque Bolsonaro, pendant tout son mandat de 2019 à 2023, a répété qu'il était prêt à une rupture avec l'ordre constitutionnel, a menacé plusieurs fois le pays d'un coup de force, de l'armée, etc. Ce qui s'est passé fin 2022, et je tiens à insister là-dessus, est gravissime et particulièrement grave. Et qu'est-ce que révèle le rapport de police, de la police fédérale, qui a été dévoilé publiquement le 28 novembre et qui a entraîné la demande d'inculpation de 38 personnalités, ou 37, je crois que c'est 38, dont Jair Bolsonaro et 24 militaires. Ce qui est jamais vu dans un pays marqué par la dictature militaire et où justement l'impunité des généraux, des soldats avait toujours prévalu. Donc on a une rupture radicale dans l'histoire du Brésil. Toutes ces personnes sont accusées d'avoir comploté et activé, dans le cas de Bolsonaro, de manière, je cite, directe et effective, pour un coup d'État fin 2022, avec notamment plusieurs généraux, des ministres impliqués dans l'organisation d'un putsch qui visait à assassiner Alexandre de Moraes, qui est le juge à l'époque président du tribunal suprême électoral, supérieur électoral et garant des élections, Lula lui-même par empoisonnement lors d'un événement public, et de son vice-président élu, Geraldo Alckmin, pour les empêcher de prendre le pouvoir le 1er janvier 2023. Le plan est allé aussi loin que la nuit du 15 décembre 2023, six personnes, vraisemblablement des militaires armés d'explosifs et d'armes à feu, ont pris position dans Brasilia pour tenter, d'après ce qu'on a compris, d'intercepter, de capturer et d'assassiner le juge Alexandre de Moraes et entraîner par la suite le putsch. Donc l'opération a été annulée au dernier moment, mais il apparaît...
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'un contre-ordre a été donné ? Est-ce que un changement de trajet d'Alexandre de Moraes a fait avorter le début de coup d'État ? Ce qu'on sait aussi, c'est que Bolsonaro a convoqué, et ça a été prouvé par des témoignages et par les recoupements de la police, a convoqué les chefs de l'armée de terre, de l'aéronautique et de la marine à au moins deux reprises au palais présidentiel pour leur proposer un plan de coup d'État en bonne et due forme avec état de siège, annulation des élections, création d'un comité dirigé par des militaires pour organiser le futur scrutin et mise en prison de toute une série de personnes, dont le juge Alexandre de Moraes.
Et ce que vous rapportez dans vos articles, c'est que ce plan, il était extrêmement minutieusement préparé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et politique, si bien que son annulation, le fait qu'il ne soit pas passé à l'acte, reste relativement mystérieux. Ça veut dire que l'avenir...
Plus ou moins mystérieux. En fait, ce qui a vraiment empêché le coup d'État, c'est les pressions exercées par Joe Biden, vraisemblablement à la Maison Blanche. Donc on ose imaginer ce qui serait passé avec Donald Trump. Et deuxièmement, et par conséquence, le fait que deux des trois hauts commandements de l'armée, c'est-à-dire le commandant de l'armée de terre, le commandant de l'aéronautique, étaient défavorables au putsch. Il ne peut pas y avoir de putsch au Brésil sans l'armée de terre.
En tout cas, l'avenir politique de Bolsonaro semble désormais compromis. Et pourtant, en novembre, quand Donald Trump, c'est là qu'on voit aussi l'importance des liens entre les milieux trumpistes et les milieux conservateurs au Brésil, l'élection de Trump a suscité l'espoir chez les partisans de Bolsonaro. Vous citez par exemple un militant d'extrême droite qui vous explique vouloir se rendre à l'investiture du président américain le 20 janvier avec une petite pancarte où il voudrait écrire « Monsieur Trump, sauvez notre Brésil ». Qu'attendent ces bolsonaristes de Donald Trump ?
Alors, ils attendent de Donald Trump qu'il renverse le gouvernement Lula, tout simplement, par des sanctions économiques, et notamment les taux d'intérêt de la Fed, ou alors des taxes supplémentaires, en particulier sur les biens industriels, parce que le Brésil... En gros, ils veulent que Donald Trump joue contre le Brésil pour faire tomber Lula. Et le Brésil n'a jamais autant exporté de biens industriels vers les États-Unis qu'en ce moment. C'est une énorme force dans les exportations brésiliennes. Ça permet de... C'est des biens à haute valeur ajoutée, à la différence de l'agronégoce. Donc, il demande à ce qu'on que justement que Donald Trump tente d'abaisser ses exportations.
Quitte à ce que le Brésil
sacrifie l'économie brésilienne, ce qui est quand même très paradoxal. Et par ailleurs, ils espèrent qu'Elon Musk et que les réseaux sociaux d'Elon Musk, en particulier X, mais aussi la plateforme, et aussi l'entreprise Starlink, permettent d'influencer les élections au Brésil en 2026 dans un but de désinformation.
Rappelons que le réseau X a été suspendu pendant quelques temps au Brésil, notamment du fait du juge Alexandre de Moraes, dont vous parliez tout à l'heure, et qui faisait partie des personnes qui devaient être assassinées dans le plan dont vous parliez. La grande question aujourd'hui, c'est qui va récupérer les voix des bolsonaristes et de tous ces courants ultra-conservateurs et d'extrême droite au Brésil ? Est-ce que la succession est désormais ouverte ?
Alors, oui et non, la succession est fermée parce que Bolsonaro dit qu'il sera candidat, mais tout indique, vu les poursuites qui pèsent sur lui, à moins d'un événement extrêmement dramatique, et on peut jamais dire totalement jamais au Brésil, il est plus que probable que Bolsonaro ne sera plus jamais candidat à une élection au Brésil. Ça me semble très peu probable. Cependant, il y a au moins 4 candidats qui sont capables de prendre sa succession et moi, je pense, de battre Lula, même un Lula relativement populaire, aux prochaines élections. Il y a le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, qui est un militaire, qui est l'ancien ministre des infrastructures de Bolsonaro, qui est vu comme un technicien d'extrême droite populaire. Il y a Pablo Marçal, qui est un coach évangélique extrêmement populiste et vulgaire, qui a failli accéder au deuxième tour des municipales à São Paulo, qui était la révélation du scrutin et qui a une popularité nationale grâce à son usage des réseaux sociaux. Il y a l'épouse de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, qui est une évangélique fervente, qui rallie un électorat féminin, qui a manqué à Bolsonaro. Donc on a comme ça plusieurs candidats capables de prendre la succession très sérieusement, voire même plus efficacement que Bolsonaro. Moi, je me souviens, pendant le mandat de Bolsonaro, il y avait énormément de ses partisans qui votaient pour lui, qui l'aimaient, etc., mais qui disaient « ça serait un bon président de boca fechada », c'est-à-dire de bouche fermée. Il faudrait qu'il se taise. Et là, ce serait le top. Or, c'est par exemple le premier, le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, c'est vraiment un Bolsonaro à la bouche fermée ou à la bouche entrouverte. C'est-à-dire qu'il est un technicien compétent, capable de manier des réseaux dans les ambassades. Il est très apprécié dans les ambassades et les consulats au Brésil. Et cette personnalité vraiment a un profil presque consensuel dans un pays où les opinions progressistes sont extrêmement minoritaires. Enfin, je rappelle qu'on est dans un pays où 8% de la population est favorable à une légalisation totale de l'avortement.
Ce qu'on entend, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il y a aussi quand même une fragmentation avec ces différentes figures qui commencent à émerger et peut-être une, sans faire de politique fiction, mais des divisions qui vont exister. En tout cas, c'était encore un peu tôt pour savoir quelle est la personne qui va récupérer, parce qu'encore une fois, au-delà de l'avenir politique de Jair Bolsonaro, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a vraiment une tendance de fond sociologiquement sur l'électorat qui se porte plutôt sur des camps, sur des idées très conservatrices.
Oui, parce que c'est quoi les trois mouvements de fond de la société brésilienne aujourd'hui, qui portent la société brésilienne? C'est un, en économie, l'agronégoce. Et essentiellement soja, un secteur ultra conservateur qui aujourd'hui domine l'économie brésilienne depuis l'intérieur du Mato Grosso et dame le pion aux élites traditionnelles un peu plus modérées de São Paulo, de Rio de Janeiro, etc. C'est les évangéliques, bon là je vous apprends rien, le Brésil sera un pays pas forcément à majorité évangélique, mais en tout cas où les catholiques pourraient être minoritaires d'ici très peu d'années, d'ici une décennie, et l'essentiel des grandes figures évangéliques sont des personnages assez ultra-conservateurs, en tout cas. Et enfin, les réseaux sociaux. Le Brésil est le champion mondial de WhatsApp, un des champions de TikTok. Enfin, moi, je suis toujours étonné quand je viens en France et qu'on s'étonne que certaines personnalités à l'extrême droite puissent faire campagne sur TikTok. Quelle innovation! Ça fait des années que c'est le cas au Brésil et que c'est l'essentiel de leur popularité. Or, ces réseaux sociaux sont dominés par l'extrême droite complotiste et la gauche ne sait pas répondre à cela. Vous prenez agronégoce, évangélique et réseaux sociaux, vous avez un cocktail gagnant pour une élection. C'est le cocktail de l'extrême droite. Lula, lui, a une base qui repose sur les partis et les syndicats en perte de vitesse, le catholicisme progressiste de la théologie de la libération totalement minoritaire et même quasiment disparu, et la base industrielle du Brésil. Tout ça, c'est des secteurs en perte de vitesse.
Merci beaucoup. Merci Bruno Meyerfeld d'être passé dans le retour de terrain. Vos reportages et analyses sur le Brésil sont à lire sur le site du Monde. Je signale aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, d'un papier sur le bilan de Lula qui est plutôt positif sur l'arrêt, enfin la ralentissement de la déforestation de la forêt amazonienne. C'est pas un arrêt, il se l'est fixé zéro déforestation pour 2030, c'est l'objectif. Et pour l'instant, les premiers résultats sont plutôt encourageants. Voilà, c'était pour finir sur une note positive. Merci infiniment.
Eu falo alto, grito mesmo, vê se não implica. A altura da minha voz é do mesmo tamanho da sua dívida. Mais de 500 anos, juros até multiplica. Com correção monetária adicional por covardia conta alta. Eu tô aqui pra cobrar, eu não tava fazendo nada. Resolvi te incomodar. Que é pra não te esquecer que a sua herança vem de muitos pretos que não estão no raso, que foram parar no fundo do mar. Esse mesmo que cê gosta tanto, o sal que cê vê lá na praia é fruto do canto dessa multidão que não teve chance de nadar ou se salvar, porque era amarrado antes. Se via com história de mimimi incoerente, não se ilude, branquitude, cês devem até os dentes. A conta vem, amém. Amém. Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? A conta vem, charamanaia. Eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. Tu mastiga comida e sobra vai pro lixo, prefere jogar fora do que dá pra um faminto, e compra pro cachorro só ração fina de quilo, e pra empregada paga menos do que um salário mínimo ínfimo. O seu desejo de mudança no seu íntimo só quer um like. Intolerância é a regra e ninguém erra, só senta em cima do seu rabo.
Je parle fort, je crie, la hauteur de ma voix est du même montant que votre dette à Conta Vai Chegar. La facture va arriver, de la chanteuse et rappeuse Bia Ferreira, extrait de son dernier album Faminta, paru en 2022. Et c'est sur ce flow brésilien qu'on quitte l'Amérique latine, direction Gaza.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
De nombreux pays, de nombreuses organisations ainsi que l'ONU sont prêts à intensifier leurs efforts humanitaires. Ce n'est pas la volonté qui manque. Il y a un manque d'accès car Israël ne collabore pas. Israël ne facilite pas l'accès humanitaire et l'aide au développement. Toutes ces organisations et ces pays qui veulent faire la différence, qui veulent aider tous ceux qui sont coincés dans ce cauchemar, n'ont pas la possibilité d'aider. Donc aujourd'hui, la communauté internationale a dit « assez ». Nous devons répondre.
Le vice-président des affaires étrangères norvégien Andreas Kravik, qui s'exprimait suite à l'adoption hier par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. L'initiative était portée par la Norvège, qui s'inquiète, et elle n'est pas la seule, de la diminution de l'aide qui entre sur le territoire de Gaza. On parle ici de nourriture, d'eau potable et de produits de première nécessité dont les quantités sont insuffisantes pour répondre aux besoins des 2,4 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, tandis que dans le nord de l'enclave, où l'armée mène des opérations d'envergure, le blocus est encore plus sévère. Un rapport de Human Rights Watch paru cette semaine estime que les autorités israéliennes ont, je cite, « délibérément créé des conditions de vie visant à causer la destruction d'une partie de la population de Gaza, notamment du fait de la privation d'accès à l'eau ». Alors pourquoi l'aide humanitaire est-elle entravée à Gaza? L'accord pour une trêve dont on parle depuis quelques jours pourrait-il permettre aux droits humanitaires d'être respectés et aux otages d'être libérés? On en discute avec Julia Grignon de l'IRSEM et Amélie Ferret de l'IFRI, et on démarre comme chaque vendredi avec l'édito de Marc Semo.
Merci Mélanie. Alors, à défaut d'une paix israélo-palestinienne en l'état largement utopique, est-ce qu'il est au moins possible d'imaginer une trêve et voire une sortie de conflit à Gaza? Cette guerre est déjà la plus longue jamais menée par Israël, lancée en réaction au massacre pogromiste commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle se solde à la fois par un terrible bilan humain et une dévastation totale de la bande de Gaza, plongée dans une immense crise humanitaire. L'unique trêve, en novembre 2023, permet la libération de 80 otages israéliens détenus par le Hamas, en échange de 240 Palestiniens prisonniers en Israël. Depuis, les négociations entre Israël et le Hamas notamment via le Qatar, n'ont cessé d'être relancés, de s'enliser et de repartir. Le Qatar avait jeté l'éponge, mais paradoxalement, la prochaine installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier a relancé le processus. Le président promet l'enfer au Proche-Orient si les 96 otages, dont 60 seraient encore vivants, n'étaient pas libérés avant sa prise de fonction. Alors, s'il est coutumier de telles rodomondades, les choses néanmoins semblent un peu bouger. Aussi bien côté israélien que côté Hamas, on parle de discussions, je cite, sérieuse et positive. Le Hamas, profondément affaibli, pourrait se résigner à accepter la présence de l'armée israélienne dans le corridor Philadelphie frontalier de l'Égypte, mais reste aussi la difficulté de trouver un accord sur les prisonniers palestiniens qui seraient échangés. Le Hamas souhaite notamment la libération de figures de premier plan, à commencer par Marwan Barghouti, figure très populaire auprès des Palestiniens, partisan de la solution à deux États, qui est en prison depuis 22 ans. Benjamin Netanyahou s'y refuse, comme il refuse toute reconnaissance d'un État palestinien. Or, il est évident qu'il ne peut y avoir de solution durable que politique. C'est la condition d'ailleurs posée par l'Arabie Saoudite pour normaliser ses relations avec l'État hébreu et jouer un rôle dans une tutelle ou la reconstruction ensuite de Gaza. Israël aujourd'hui paraît en large part avoir atteint ses objectifs militaires, aussi bien à Gaza qu'au Liban contre le Hezbollah, mais le maximalisme du gouvernement de Netanyahou condamne l'État hébreu à une guerre sans fin et à une solitude diplomatique qui ne fera que croître.
Merci beaucoup Marc Semo et on va démarrer la discussion en revenant sur un état des lieux de la situation actuelle sur la situation humanitaire. Julia Grignon, est-ce qu'on sait pour quelles raisons les camions qui transportent l'aide humanitaire à destination des Gazaouis sont aujourd'hui de moins en moins nombreux à pouvoir passer ?
Alors c'est difficile de le savoir avec certitude. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'avant le 7 octobre 2023, il y avait autour de 500 camions par jour qui franchissaient la frontière et qui accédaient à la population dans le besoin à Gaza. Les derniers chiffres parlent d'une soixantaine de camions par jour au mois de novembre, donc il y a une baisse drastique, alors que les besoins ont considérablement augmenté. Il faut avoir à l'esprit qu'en droit international humanitaire se fonde le droit pour une population civile à recevoir de l'assistance humanitaire lorsqu'elle est affectée par les conflits armés. Et en l'occurrence, il s'agit d'une occupation. Israël est la puissance occupante sur le territoire palestinien, et donc en particulier Gaza, et à ce titre, a l'obligation, soit elle-même de pourvoir aux besoins de la population civile, soit de laisser des agences humanitaires rentrer sur son territoire. Le tout avec un droit de contrôle et la possibilité d'invoquer des nécessités militaires. Et donc, les autorités israéliennes peuvent contrôler notamment ce qui accède à la population civile. Ça ne peut être que de l'aide alimentaire ou des soins de santé, en dehors de tout autre bien. Et puis, ça peut être la question des nécessités militaires. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation et compte tenu du fait que cette situation s'inscrit dans des années d'occupation, de blocus et d'accès à l'aide humanitaire, il est incompréhensible qu'on fasse aussi peu rentrer de camions, que ces contrôles prennent tellement de temps. Il y a des camions qui sont massés à la frontière, qui doivent attendre des mois pour avoir des autorisations. C'est incompréhensible. Ce sont des agences humanitaires qui sont connues des autorités, qui ont toujours apporté des soins de santé et de l'aide alimentaire. Il n'y a pas de raison à cette entrave. Et simplement pour terminer sur ce point, par ailleurs, la Cour pénale internationale, récemment en émettant ses mandats d'arrêt, a constaté qu'elle ne trouvait pas de nécessité militaire qui pourrait justifier l'empêchement de cette aide humanitaire sur le long terme.
Parmi les incompréhensions qui sont remontées par les agents humanitaires de terrain, il y a le fait que les points de passage soient extrêmement restreints. Alors il y a celui de Kerem Shalom qui est situé dans le sud et qui est vraisemblablement le point de passage principal. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Et comment justement expliquer qu'il n'y ait qu'un point de passage qui crée justement à la fois des embouteillages mais aussi la concentration, on va en parler, des phénomènes de pillage et d'insécurité du fait qu'il n'y ait qu'un seul point de passage. Comment expliquer qu'il n'y en ait qu'un seul ?
Alors là, c'est les autorités israéliennes qui administrent le territoire et qui décident par où doit passer l'aide humanitaire. Les raisons pour lesquelles elles ont décidé que ce serait Kerem Shalom, moi je ne les connais pas. Mais en tout cas, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a un seul point d'entrée, ce qui est donc parfaitement insuffisant. Et comme vous l'avez souligné, ça donne lieu à des émeutes, à des pillages au moment où l'aide rentre sur le territoire. Parce que cette aide est tellement insuffisante, la population est tellement désespérée que lorsque les camions rentrent, en fait, ils se jettent sur les camions. Il y a eu des morts, on a vu des distributions par les airs. Les gens se sont noyés dans la mer pour essayer d'aller récupérer les colis qui étaient lancés depuis les airs. Et donc ça montre, à mes yeux en tout cas, une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on laisse passer au compte-gouttes l'aide humanitaire, ce qui place la population dans une situation déshumanisante, puisque donc elle est aux abois pour obtenir de l'aide, et donc ça stigmatise en disant, mais vous voyez, ils ne sont pas capables de gérer, en fait. L'aide humanitaire rentre, mais ils ne sont pas capables de la gérer. Mais en fait, il y en a tellement peu qu'il n'y a plus personne qui est capable de gérer. Les agences, le peu d'agences humanitaires qui restent dans la bande de Gaza ne peut plus contrôler ces populations pour elles-mêmes administrer l'aide humanitaire qui rentre. Et donc voilà comment on peut expliquer ces pillages aujourd'hui.
Oui, d'autant qu'il y a le phénomène des émeutes qu'on a vu au début, qui résultait d'une situation assez chaotique. Mais là, récemment, les ONG font aussi part de pillages organisés avec des gangs armés qui guettent les camions et qui, pour le coup, sont très organisés. Qu'est-ce que ça nous dit, Amélie Ferret, de l'effondrement des structures de sécurité internes à la bande de Gaza ?
Bah, ça dit tout, et comme l'a très bien expliqué Julia Grignon, c'est la stratégie du chaos. En fait, les éléments de langage israélien, c'est de dire, nous, on calcule combien il y a de Gazaouis dans la bande de Gaza, et on calcule le nombre de calories dont ils ont besoin par jour, et donc on laisse rentrer assez de camions avec les rations alimentaires qui correspondent au nombre de calories nécessaires pour couvrir tous les besoins de la population. Et ensuite, ils disent, effectivement, c'est pas de notre faute si il y a des pillages et il y a du marché noir, il y a de l'aide humanitaire qui se perd. Mais le problème, c'est que cet argument-là, il ne marche pas. Il ne marche pas d'une part, comme l'a très bien expliqué Julia Grignon, parce que le niveau d'aide humanitaire a baissé par rapport à avant la guerre. Et d'autre part, il ne marche pas non plus, puisque en fait, le seul raisonnement qui compte quand on parle de vie humaine, c'est le raisonnement par les conséquences. Et ce qu'on voit et ce que voit non seulement les organisations humanitaires sur place, mais aussi l'envoyé spécial des Nations Unies, qui est une ancienne ministre des Finances des Pays-Bas, c'est que les gens sont effectivement en train de mourir de faim, de soif. Ce qu'elle décrit, c'est des gens qui sont dans des conditions déplorables, qui ont des maladies de peau terribles, qui fouillent parmi les décombres et parmi les cadavres pour essayer de trouver un petit peu à manger, et par ailleurs, elle décrit des marchés où dans tout un marché, il y a 4 tomates, dont 2 qui sont pourries. Et c'est ça la situation aujourd'hui. Et ce qui est extrêmement perturbant, c'est qu'il y a vraiment 2 narratifs qui s'opposent. Ceux des organisations humanitaires et des envoyés des Nations Unies sur le terrain qui décrivent une situation. Enfin, elle, ce qu'elle dit, c'est cette envoyée des Nations Unies, c'est que sa situation est... ne peut même pas être décrite et que c'est impardonnable ce qui est en train de se passer. Et quand elle va interpeller Netanyahou sur le sujet, Netanyahou dit « mais il n'y a pas de problème ». Il lui montre des photos de marchés pleins qui sont des photos qui sont en fait fausses. Et les Israéliens disent « bah regardez, nous on a des chiffres à l'appui et on donne suffisamment de calories ». Et c'est ça le problème. Et l'argument qui est souvent utilisé sur la comparaison avec Mossoul, de dire oui, ce qu'on fait en fait c'est la même chose que ce qu'a fait la coalition américaine, française, occidentale à Mossoul, en fait elle ne tient pas. Et pourquoi elle ne tient pas? Parce qu'à Mossoul, ce qu'a fait la coalition, c'est qu'ils ont fait des corridors pour évacuer les civils avant de faire leur opération militaire. Et là le problème, c'est que depuis un an, on a une opération militaire légitime contre le Hamas, mais on a aussi une population civile qui est prise au piège, littéralement, et qui, pardon, est en train de mourir parce que personne n'arrive à contraindre Israël pour prendre les mesures nécessaires qui sont des obligations légales dans le droit des conflits armés pour protéger la population civile lors d'opérations militaires.
Marc Semo.
À propos de ces gangs, c'est qui ces gangs? Parce qu'il y a le désespoir de la population, les gens qui se jettent sur les camions, comme on l'a vu, ceux qui sont morts au moment des parachutages, etc. Mais de plus en plus, il y a des gangs armés. Alors c'est quoi ces gangs et comment est-ce qu'ils arrivent à prospérer alors même que le Hamas, même s'il a été profondément affaibli par les opérations israéliennes, continue quand même à garder une bonne part du contrôle de la bande de Gaza, et c'est des gens quand même armés et qui savent se faire respecter. Alors c'est quoi ces gangs?
Et j'ajoute une micro-question à la tienne, Marc. Est-ce que le Hamas peut être considéré aussi comme coupable de détournement d'aide, comme l'en accuse Israël, ou est-ce que ce sont des
acteurs... Pour ses propres combattants
différents.
Mais bien sûr. Enfin bon, moi je suis pas allée dans la bande de Gaza pour vérifier, mais bien sûr que le Hamas détourne l'aide humanitaire. Mais c'est évident. Mais est-ce que c'est une raison pour laisser les civils mourir. Non, c'est ça le problème. Et par ailleurs, il ne faut pas imaginer la bande de Gaza gérée par le Hamas comme la France est gérée. Enfin, on parle quand même d'un groupe non armé et d'un groupe armé, mais non étatique et d'un territoire qui est quand même en déperdition depuis assez longtemps. Et évidemment, si vous bombardez, en fait, et que vous avez entre 70 et 80% du bâti de la bande de Gaza qui est détruit, vous n'avez plus aucun système étatique, les hôpitaux sont détruits, l'UNRWA ne peut plus opérer, et évidemment, vous n'avez plus de système d'ordre. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Mais tout le monde ferait la même chose. Vous prenez, en fait, ce que vous pouvez, et effectivement, vous essayez de... Enfin, c'est la loi du plus fort. Et vous utilisez les armes que vous trouvez pour essayer d'aller prendre des sacs de farine pour nourrir vos familles. Donc, en fait, ces bandes d'armées, pour répondre à la question, c'est qui ? Ce sont des jeunes Gazaouis, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont dans des situations, qui n'ont plus de maison, qui ont perdu une partie de leur famille, et qui s'agrègent à la loi du plus fort pour survivre.
Julia Grignon.
Et peut-être juste pour compléter ce portrait, il faut aussi avoir à l'esprit que dans l'action humanitaire, les grandes organisations humanitaires qui aujourd'hui opèrent dans la bande de Gaza, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde ou le CICR, le Comité International de la Croix-Rouge, ont l'habitude de faire de la délivrance de l'aide humanitaire et prennent systématiquement en considération une part de l'aide qui va être détournée. Ça existe dans tous les conflits armés. Donc en réalité, peu importe qui sont ces groupes, c'est quelque chose qui est pris en compte et qui est géré par les acteurs humanitaires. Et aujourd'hui, Israël ne peut pas l'ignorer.
Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une part qui est prise, c'est toute, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement de l'acheminement de l'aide jusqu'au bout. Vous parliez tout à l'heure, Amélie Ferret, du raisonnement des autorités israéliennes qui calculent le nombre de calories qui sont envoyées. Est-ce que ça veut dire qu'ils considèrent que leur responsabilité s'arrête sur cette partie-là, c'est-à-dire calculer le nombre de colis et de calories qui est envoyé, mais pas sur la partie distribution, c'est-à-dire s'assurer que une fois que l'aide a passé le poste frontière, eh bien, elle est répartie et surtout est également répartie, puisqu'on voit évidemment aussi se développer un marché noir avec ceux qui arrivent à capter un petit peu de la part de la nourriture et puis qui la revendent à des prix astronomiques.
Oui, tout à fait. En fait, à la fois, ils considèrent qu'il y a que ce qu'on voit à Gaza sont des images qui sont en fait détournées, qui servent la propagande du Hamas et qui ne décrivent pas la réalité des Gazaouis. Donc en fait, il y a un désaccord sur les faits et la condition humanitaire à Gaza. Enfin, moi, dans les interactions que j'ai eues avec des officiels israéliens, ils parlent de so-called humanitarian crisis, c'est-à-dire une soi-disante crise humanitaire. Donc, en fait, il n'y a pas d'accord sur les faits et sur la situation. Et par ailleurs, effectivement, ils considèrent que ce n'est pas de leur responsabilité, mais encore une fois, le problème, c'est que le droit international, j'imagine que Julia Grignon le dira mieux que moi, demande aux belligérants de sortir les civils des conflits. Et donc, on peut très bien dire, bah oui, mais regardez, je les laisse sur le champ de bataille, mais je leur donne quand même à manger. Mais d'accord, mais en fait, c'est pas ça, être responsable dans un conflit armé.
Oui, donc, pardon, Julia Grignon, je vous en
effectivement, parce que toute l'architecture du droit international humanitaire, et en particulier ce qui concerne la protection des populations civiles, est construit sur cet impératif fondamental de protéger les populations civiles des opérations militaires. Et en l'occurrence, ici, en plus, il y a un niveau qui vient se surajouter, c'est que Israël est une puissance occupante. C'est donc Israël qui a la responsabilité de l'administration du territoire. Donc c'est comme si elle invoquait ses propres turpitudes, puisque c'est elle qui est responsable de faire en sorte que les conditions de sécurité soient suffisantes dans la bande de Gaza pour que l'aide humanitaire puisse parvenir aux populations civiles. Et là, je crois qu'il faut aussi souligner qu'il y a une forme de cynisme des autorités israéliennes, qui notamment, en janvier dernier, lorsque la Cour internationale de justice a ordonné des mesures conservatoires pour se prémunir d'un génocide éventuel dans la bande de Gaza, Israël a répondu à certaines interrogations en disant que, regardez, on ne contribue pas à la commission d'un génocide puisqu'on permet à l'aide humanitaire de rentrer sur le territoire. Et donc, effectivement, de montrer concrètement, de manière tangible, mais oui, c'est vrai, il y a des camions qui rentrent dans la bande de Gaza. Oui, c'est vrai, il y a des hôpitaux qui fonctionnent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une dizaine d'hôpitaux qui fonctionnent dans la bande de Gaza.
Partiellement, oui.
Mais c'est parfaitement insuffisant. Et il faut quand même aussi souligner, sur tous ces aspects d'aide humanitaire, que aujourd'hui, les autorités israéliennes sont mises en cause pour l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Ça, c'est pas rien. Et à ma connaissance, et ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine, je n'ai jamais vu ces mises en cause sur ce motif. La famine comme méthode de guerre, c'est-à-dire des bombardements indiscriminés, la torture, la prise d'otages, etc. C'est des éléments matériels de commission d'infraction qu'on connaît depuis très longtemps. Aller sur le terrain de l'aide humanitaire, et toutes les juridictions l'ont fait, que ce soit la Cour internationale de justice en ce qui concerne la responsabilité étatique, la Cour pénale internationale en ce qui concerne la responsabilité pénale individuelle, toutes les agences des Nations Unies, et aujourd'hui on a des rapports de grandes organisations humanitaires ou de défense des droits humains qui toutes mettent en avant l'entrave à l'accès humanitaire. Donc c'est bien qu'il y a une convergence qui montre que c'est le problème aujourd'hui dans la bande de Gaza.
En octobre dernier, le Parlement israélien a voté une loi, deux lois même, visant à interdire les activités de l'UNRWA, c'est l'agence de secours pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Donc interdire, entraver ces activités sur tous les territoires, ça concerne Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem. Est, ces lois doivent entrer en vigueur en janvier. Pour quelles raisons, c'est peut-être une question naïve, mais pour quelles raisons ces lois ont-elles été votées, pardon, de quoi le gouvernement israélien accuse-t-il l'UNRWA et ces accusations sont-elles fondées?
Alors, l'UNRWA, ça fait très longtemps que l'agence est dans le collimateur de l'extrême droite israélienne. Très longtemps. En fait, ce qui est reproché à l'UNRWA, c'est une collusion avec le Hamas au motif que des membres de l'UNRWA et participer aux forces armées du Hamas.
Et aux attentats du 7 octobre,
oui,
les accusations portent sur 9 personnes, il me semble.
Qui faisaient partie des commandos du Hamas qui ont perpétré les massacres du 7 octobre. Mais derrière, il y a un problème politique plus fondamental avec l'UNRWA, qui est que l'UNRWA, en fait, donne le statut de réfugié aux Palestiniens génération en génération. Ce qui fait que ça augmente mathématiquement le nombre de réfugiés. Et la question des réfugiés palestiniens et du retour potentiel des réfugiés palestiniens est un des points d'achoppement parmi d'autres, par exemple la question de Jérusalem, etc., dans la résolution du conflit entre Israël et Palestine. Donc c'est pour ça que cette agence, elle est extrêmement critiquée depuis très longtemps par l'extrême droite israélienne. Et moi, je voulais simplement ajouter un point. C'est qu'il y a effectivement la question de l'aide humanitaire, mais il y a aussi la question des règles d'engagement de Tsahal. Et là, ce qu'il faut écouter, c'est pas les agences des droits de l'homme, mais c'est les officiers et les soldats de Tsahal qui, en fait, reviennent et disent, par exemple, à des journalistes comme Haaretz, qui a fait une couverture assez extensive de ça, ce qu'ils commettent, on peut... Enfin, moi, je suis très mal à l'aise avec ce terme de... Enfin, avec ce focus du débat sur est-ce que c'est un génocide, est-ce que c'est pas un génocide. Bon, moi, je suis pas juriste, et à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fiche, en fait, si c'est un génocide ou si c'est pas un génocide. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui, tous les jours, depuis un an. Et qu'est-ce qu'on fait pour les sauver? Et donc, ce que ces soldats disent, c'est dans le Netzarim Corridor, qui est donc une forme de couloir qui coupe la partie nord de Gaza, qui, en fait, aujourd'hui, est devenue une sorte de zone militaire qui, potentiellement, pourrait être le terrain d'une réoccupation israélienne, et bien que ce corridor est devenu une kill zone, donc que toutes les personnes qui traversent ce corridor, que ce soit des Gazaouis, des membres du Hamas ou des enfants, sont tués et sont considérés comme des terroristes, et de leur aveu eux-mêmes, ils disent, voilà, il y a une ligne de cadavres qu'on laisse là, il y a des chiens qui viennent les manger. Et du coup, les Gazaouis savent que quand il y a des chiens, il ne faut pas approcher. Donc, je pense que on a toutes les informations de la part des soldats eux-mêmes qui ne peuvent pas être soupçonnés d'antipatriotisme pour Israël, de la part d'organisations humanitaires qui ont pignon sur rue, qui ont une méthodologie fiable, qui sont des sources sérieuses. Et la question, c'est finalement, que fait-on face à ça?
Julia Grignon.
Peut-être sur l'UNRWA, je pense qu'il faut effectivement, d'abord je souscris à tout ce qu'a dit Amélie Ferret. Sur l'UNRWA, il faut aussi un peu revenir en arrière et comprendre c'est quoi cette organisation en fait. Elle a été créée avant la convention de 1951 sur les statuts de réfugiés. Elle est opérationnelle depuis 1950. Elle a été reconduite de loin en loin par l'agence, par l'Assemblée générale des Nations Unies parce que la question des Palestiniens n'est pas résolue. Elle a un mandat jusqu'en 2026 par les Nations Unies. Et son mandat, ça a été, au moment de l'indépendance de l'État d'Israël, de gérer les réfugiés palestiniens. Et, comme l'a dit Amélie Ferret, ensuite, il y a une transmission du statut de manière héréditaire. Mais ça veut dire que cette agence, elle est responsable de la vie, de la bonne administration des Palestiniens, et en particulier donc ceux qui se trouvent dans la bande de Gaza. Mais donc elle fait fonctionner des écoles, elle permet effectivement l'acheminement de l'aide humanitaire, etc. Elle prend en compte tous les aspects de la vie des Palestiniens. Et donc la décision qui a été prise par la Knesset, enfin les deux lois que vous avez mentionnées, sont extrêmement graves, parce que là aussi c'est un moyen détourné de ne pas aller attaquer l'ONU directement, c'est-à-dire l'UNRWA directement, mais de prendre des lois qui vont faire qu'en réalité, l'UNRWA ne va plus pouvoir fonctionner. Parce que la première, elle interdit à l'UNRWA de travailler sur le territoire de Jérusalem-Est. Or, à ma connaissance, c'est depuis Jérusalem-Est que tout est géré pour la bande de Gaza. Donc ça veut dire que si on interdit à l'UNRWA d'avoir un siège à Jérusalem-Est, il n'y a plus d'aide qui rentre dans Gaza. La deuxième loi, elle consiste à dire que l'UNRWA ne peut plus entrer en contact avec les autorités israéliennes. Quand vous voulez distribuer de l'aide humanitaire, que vous êtes la puissance occupante, vous devez discuter avec les agences qui vont distribuer cette aide humanitaire. Et donc, si vous voulez que l'acheminement se fasse dans des conditions aussi paisibles que possible, etc., il faut avoir un interlocuteur. Si vous n'avez plus d'interlocuteur, bien vous ne pouvez tout simplement plus travailler.
Et puis, il y aura aussi des conséquences en Cisjordanie, où l'UNRWA gère notamment des structures d'éducation, entre autres, notamment pour plus de 40 000 enfants ayant le statut de réfugié en Cisjordanie. Marc Sémo.
Oui, mais à propos de l'UNRWA, le contentieux n'est pas seulement avec l'extrême droite israélienne. Ça fait des années que toutes les autorités israéliennes, gauche comprise, critiquent l'UNRWA, et pas seulement, y compris au niveau international, parce que l'UNRWA est accusé à la fois à gérer, donc effectivement, les réfugiés de l'après 48, etc., mais est accusé de perpétuer le conflit, à la fois, par exemple, par le contenu de ses programmes éducatifs, qui ensuite ont été corrigés après que, notamment, l'Union européenne se soit indignée sur un certain nombre de livres scolaires. Mais disons, les contentieux, au-delà de l'affaire, il y a, je crois qu'ils étaient 13, qui étaient membres de l'UNRWA, qui étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre, ce qui est effectivement assez peu par rapport au nombre de fonctionnaires de l'UNRWA. C'est quand même beaucoup plus profond, la critique vis-à-vis de l'UNRWA. Et effectivement, ce gouvernement qui est le plus à droite de l'histoire d'Israël, on profite pour régler ses comptes.
Amélie Ferret.
Oui, mais enfin, bon, moi, je oui, d'accord. L'UNRWA a eu des manuels scolaires qui ont été problématiques. Il y a des membres de l'UNRWA qui ont fait partie des commandos du Hamas. Ok. Et y a des lois qui ont été faites. Moi, ça me dérange pas si vous voulez que l'UNRWA soit refondée ou qu'on passe par quelque chose d'autre.
L'idée, c'est là, et d'obliger d'aller jusqu'au bout de cette crise pour refonder.
Non, mais le problème, c'est que c'est quoi les alternatives? Non, mais le problème, c'est que c'est quoi les alternatives qui sont proposées par Israël? Ce qui, à la limite, si Israël disait, voilà, l'UNRWA, en fait, est partie prenante avec le Hamas, et donc c'est pas acceptable pour nous. Ok, mais dans ce cas-là, quelles sont les alternatives proposées par Israël pour acheminer l'aide humanitaire? Et moi, si vous voulez savoir ce que je pense personnellement, moi, je pense que Israël devrait faire un couloir humanitaire vers le Negev, c'est-à-dire vers son propre territoire, et accueillir des civils gazaouis sur son territoire, les traiter et faire des camps, parce que les Israéliens savent faire du triage de population. Donc ils savent distinguer des civils des commandos du Hamas. Absolument. Et donc c'est possible. Et moi je pense que c'est sur ça qu'il faut axer la discussion et pas sur les manuels scolaires
de l'opposition. Une partie de l'opposition d'ailleurs propose ça. Donc comment vous expliquez ce refus de ce qui est une solution
Le refus, il s'explique par la classe politique aujourd'hui et la situation en fait politique en Israël qui fait que en fait il y a une que la classe politique est prise en otage par l'extrême droite, qui en fait représente que 7 sièges à la Knesset, donc c'est pas non plus gigantesque, mais que pour que la coalition tienne, Netanyahou a besoin de l'accord sur ça. Et en fait, on en revient toujours à Netanyahou au verrou politique qu'il représente. Et là, en ce moment, il y a des négociations sur un potentiel cessez-le-feu avec les otages. Et donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Enfin, une libération potentielle des otages, enfin un cessez-le-feu pour la population à Gaza. Mais pourquoi ça arrive maintenant, ce cessez-le-feu? Ça arrive très précisément lors de la première semaine des audiences judiciaires de Netanyahou. Donc c'est quand même un contre-feu intéressant en termes médiatiques. Donc, je pense que la situation en Israël aujourd'hui, elle est verrouillée par Netanyahou et que tant qu'on a cette scène politique qui est toujours dominée par Netanyahou, on ne va pas s'en sortir. Voilà.
Julia Grignon.
Oui, simplement pour revenir sur l'UNRWA et sur le débat qui a lieu là, je pense qu'il faut quand même aussi remettre en perspective qu'il y a eu des accusations, notamment en lien avec le 7 octobre, etc., qu'il y a des enquêtes internes qui ont été menées et qu'il y a eu un rapport, notamment de l'ancienne ministre des Affaires étrangères et de l'Europe française, Catherine Colonna, qui a conclu que l'UNRWA était indispensable et irremplaçable. Donc je crois que c'est aussi ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on a ce débat.
Ce qui pose la question justement de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer en janvier, une fois que les lois seront appliquées et que l'UNRWA ne pourra plus avoir accès. Julia Grignon, vous parlez des échéances judiciaires pour Benjamin Netanyahou. Dans une tribune récente que vous écriviez pour Mediapart, vous disiez qu'il ne fallait pas oublier aussi la dimension idéologique de Netanyahou pour comprendre sa politique, pour comprendre la politique du gouvernement, si on se replace sur une échelle d'un temps long et aussi sur une échelle régionale. Quelles sont, selon vous, ces clés de lecture idéologiques qui permettent de comprendre aujourd'hui les intentions du gouvernement Netanyahou et ce qui pourrait advenir d'une trêve dont on parle là en ce moment?
Oui, en fait, on a tendance à décrire Netanyahou comme quelqu'un de pragmatique, d'opportuniste, comme une sorte de magicien, même si ça peut être une sorte de mage noir politique, parce qu'il arrive toujours à dominer justement le jeu politique israélien. Donc tout ça, c'est vrai, mais ça a tendance à minorer sa base idéologique, comme s'il n'agissait que pour son propre intérêt. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille révisionniste. Donc, qu'est-ce que c'est le révisionnisme dans l'idéologie, pardon, ou enfin, non, plutôt dans les courants politiques du sionisme, parce qu'il y a plein de conceptions différentes du sionisme. C'est, ça a été théorisé par Jabotinsky, c'est l'idée, en fait, de faire un grand Israël, et donc de revoir le territoire israélien. Netanyahou, c'est quelqu'un qui a toujours pensé que les accords d'Oslo étaient une erreur, et d'ailleurs, il a manifesté en ce sens, qui n'a jamais adhéré à l'idée d'un État palestinien et qui a promis l'annexion de la Cisjordanie dès 2020. Donc ça date pas de maintenant, l'annexion de la Cisjordanie. Et le problème, c'est que là, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure les plans pour l'après-Gaza de ce gouvernement-là, c'est justement de coloniser en fait le nord de Gaza et donc de ne pas donner des droits aux Palestiniens, de ne pas aller vers un État palestinien. Et je pense que pour lui, son modèle et sa réponse au problème palestinien, c'est de dire « Ok, on va gérer les Palestiniens comme on gère notre minorité arabe en Israël ». Donc ça suppose que ce soit une minorité et qu'il y ait justement une majorité juive pour préserver le caractère juif d'Israël. Et ça, c'est une première lecture. Et la deuxième lecture, qui est en fait une lecture stratégique, c'est que pour Netanyahou et pour l'état-major, en fait, le 7 octobre, ce sont des attaques qui sont « made in Téhéran ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la possibilité d'un Iran nucléaire, il y aura toujours une épée de Damoclès sur Israël. Et ça, en l'occurrence, je souscris aussi à cette lecture stratégique pour Israël. Parce que c'est vrai que un Iran nucléaire représente une menace fondamentale pour Israël. Et donc, pour moi, ma lecture, c'est que Netanyahou ne va pas s'arrêter là. Il ne s'arrêtera que au moment où il y aura un vrai coup d'arrêt, ou en tout cas un vrai retard pour le programme nucléaire iranien. Et la question qui est aujourd'hui, qui devrait être dans toutes les têtes, hormis essayer d'améliorer la vie des civils à Gaza, c'est quand est-ce qu'il va y avoir une frappe israélienne sur l'Iran. Est-ce qu'il va attendre le 20 janvier, et donc l'administration Trump, ou est-ce que ça va arriver avant ?
En attendant, il y a aussi ce qui se passe, on en parle à Gaza, en particulier dans le nord, où on a parlé de l'aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes sur l'ensemble de la bande de Gaza, mais il y a cette enclave du nord où elle est particulièrement bloquée. L'ONU parle d'un blocage total depuis environ 70 jours, et plusieurs rapports comme celui de MSF paru cette semaine parlent de nettoyage ethnique dans le nord de Gaza. Julia Grignon, qu'est-ce qui caractérise juridiquement un nettoyage ethnique? Est-ce que c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui dans le nord de Gaza? Et ça rejoint ce que évoquait Amélie Ferret de la question de l'après aussi pour ce territoire.
Oui, tout à fait. En fait, les qualifications juridiques, elles se multiplient en ce moment. Effectivement, MSF parle de nettoyage ethnique, en particulier, il faut distinguer du crime de génocide. Alors, le nettoyage ethnique, c'est obliger une population à se déplacer, à quitter un territoire pour pouvoir y établir sa propre population. À la différence du génocide, qui est l'intention de détruire en tout ou partie un groupe déterminé. Et donc là, il s'agit, si c'est un nettoyage ethnique, de déplacer cette population et non pas de la détruire en tout ou partie. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que, comme Amélie Ferret l'a mentionné, c'est que la question du génocide aujourd'hui, elle est d'une certaine manière centrale, mais elle est centrale d'un point de vue plutôt politique que juridique. Si on regarde les mandats d'arrêt qui ont été émis récemment par la Cour pénale internationale, il n'y a pas le crime de génocide dans ces mandats d'arrêt. C'est crime contre l'humanité et crime de guerre. Et dans le statut de Rome, dans le statut de la Cour pénale internationale qui définit les crimes internationaux, il n'y a pas de gradation dans les crimes. Oui, dans le langage commun, on dit que le génocide est le crime des crimes et il suscite une émotion particulière. Et donc, dès lors qu'on prononce ce terme, justement, on polarise le débat et il est très difficile, en fait, de rentrer en matière sur la réalité de ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'on peut aussi avoir à l'esprit, c'est que donc ces mandats d'arrêt, c'est crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont crimes de guerre en raison de la famine comme méthode de guerre, et que l'ensemble de ces crimes doivent être poursuivis devant la Cour pénale internationale, mais aussi devant des juridictions nationales, que ce sont les crimes les plus graves du droit international et qui ce sont ceux qui conduisent à la réclusion criminelle à perpétuité.
Il ne reste quelques minutes pour évoquer le dessin du jour, la caricature de presse de Cartooning for Peace, avec qui nous sommes en partenariat chaque vendredi. C'est un dessin qui est signé Fahd Bahadi, un caricaturiste syrien basé en Allemagne. Et c'est un dessin qui rappelle, comme on vient de l'évoquer, qu'il ne s'agit pas d'une guerre, mais de plusieurs qui se déroulent entre Israël et ses voisins. On y voit un paysage de décombres, des plaques de béton morcelées qui s'amoncellent les unes sur les autres, des immeubles éventrés dont une partie de la structure s'élève encore vers le ciel. À droite, un panneau qui indique « cessez le feu » au Liban. On voit que le mot « cesser »,« cease » en anglais, a été tracé récemment en lettres rouges, là où il n'était écrit avant que « feu au Liban ». Et c'est une colombe qui tient dans son bec un feutre rouge qui a visiblement ajouté le mot. On la voit qui se dirige de l'autre côté du champ de ruines, là où le panneau indique « Gaza ». Parviendra-t-elle à écrire le mot « cesser » de ce côté-ci du dessin? C'est la question que pose Fahd Bahadi dans ce dessin. Une petite réaction avant de terminer l'émission, Amélie Ferret.
Moi, je dirais que, enfin, il faut absolument, pour des raisons de valeur, mais aussi pour des raisons stratégiques et de crédibilité morale de l'Union européenne et d'ailleurs du camp occidental plus largement, qu'on fasse tout ce qu'il est en notre pouvoir, à la fois au niveau politique et au niveau économique, pour aider cette colombe à aller à Gaza et à effectivement écrire ceasefire, et donc à ce qu'il y ait un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens.
Julia Grignon.
Très vite, une colombe, ça représente la paix. Un cessez-le-feu, c'est pas nécessairement la paix au sens du droit international, mais c'est faire une cessation des hostilités. Et pour reboucler la boucle, on cesse les hostilités pour permettre à l'aide humanitaire en particulier de rentrer sur le territoire.
Merci, merci infiniment à toutes les deux. Julia Grignon, je rappelle, professeure de droit à l'Université Laval et Paris Panthéon Assas, également directrice scientifique de l'IRSEM. Merci infiniment aussi à vous, Amélie Ferret, responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI. Je rappelle votre ouvrage paru récemment, Les mots, armes d'une nouvelle guerre, point d'interrogation, Ukraine-Russie, la guerre des récits au 21e siècle. C'est paru aux éditions Le Robert. Merci beaucoup, Marc Sémo. On se retrouve la semaine prochaine. On sera au poste, fidèles et en direct. Et moi, je vous retrouve lundi. Nous vous proposerons une rétrospective de ce premier quart du 21e siècle qui s'achève à travers la question des frontières. Il sera question des migrations et de la tendance du monde à se refermer, des organisations criminelles et des géants du numérique qui se jouent des frontières. Et on commence lundi par les conflits territoriaux. Dans un instant, les midis de culture.
Vous écoutez France Culture.
L'histoire des sciences nous explique comment les connaissances évoluent dans le temps.
Antoine Beauchamp.
L'archéologie est une science qui s'occupe de comprendre ce que le temps qui passe fait aux sociétés humaines. À la croisée de ces chemins, il y a Science Chrono. Une heure pour passer d'une époque à une autre et plonger dans les archives et les vestiges de l'humanité.
Science Chrono, chaque vendredi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
C'est l'histoire d'une sœur bénédictine, d'une femme, d'une artiste intrépide et fragile, surgie il y a 1000 ans en Allemagne et qui est devenue une légende vivante. Elle s'appelle Hildegard de Bingen, l'incarnation du génie féminin, détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse largement le cadre religieux. Grande traversée, Hildegard de Bingen, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
En partenariat avec le journal La Croix.
Dans un instant, il sera midi, l'heure de retrouver Marie Labrie pour les Midis de Culture. Bonjour Marie.
Bonjour Mélanie.
Votre programme aujourd'hui.
Les critiques vont débattre de deux sorties musicales, le nouvel album inattendu du roi du rap américain Kendrick Lamar et un ovni rock